nommer ces personnes, raconter la répression qu'elles ont subie. Ce n'est pas parler de leur vie privée, mais c'est parler de leur vie publique, à savoir comment des dispositifs de pouvoir, des politiques publiques homophobes se sont emparés d'elles. D'autant qu'au fond, on ne sait rien, ou très peu de choses, on ne sait pas comment ils se pensaient, comment ils se définissaient, si telle personne arrêtée une fois dans les toilettes publiques en train d'avoir un rapport homosexuel était quelqu'un qui se pensait homosexuel ou quelqu'un qui se pensait hétérosexuel tout en ayant rapport avec des hommes. Donc au fond, je ne sais pas grand-chose d'eux. Je sais seulement qu'à un moment, ils ont été pris dans ces dispositifs de pouvoir.
Bonjour à tous, je m'appelle Aglaé et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Lobby. Ce mardi 6 mai, le Sénat a adopté avec modification en deuxième lecture la proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982. Cette deuxième lecture a fixé les bornes de cette période de 1945 à 1982, alors que l'Assemblée nationale avait adopté un texte dont la date de début était 1942. De plus, la deuxième lecture a supprimé le mécanisme de réparation financière adopté par l'Assemblée nationale. Par rapport à la première proposition, c'est un recul sur un projet de loi qui n'est déjà pas jugé suffisant pour réparer les préjudices causés par la justice et la police française pendant des décennies. En effet, cette répression, c'est entre 10 000 et 50 000 personnes qui ont été condamnées pour leur homosexualité et pour 90% d'entre eux, ils ont subi une peine de prison ferme. Antoine Hidier était venu parler de cette proposition de loi au micro du Lobby en décembre 2023. Il est chercheur au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales et spécialiste de l'histoire des homosexualités et des cultures minoritaires. Il vient de publier « Réprimer et réparer, une histoire effacée des homosexualités » aux éditions textuelles en avril 2025. Dans cet ouvrage, il fait l'histoire des dispositifs pénaux ayant réprimé l'homosexualité et critique les politiques contemporaines de réparation de cette répression. Par l'étude des sources judiciaires et policières, il propose une vue plus large sur la question, et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Bonjour Antoine Hidier.
Bonjour et merci beaucoup de votre invitation renouvelée au Lobby.
Merci à vous, ça nous fait très plaisir.
Partagé.
Alors, pour recontextualiser un peu la situation à nos auditeurices, est-ce que dans la continuité de vos positions sur la proposition de loi, vos recherches et votre livre représentent une preuve que la répression de l'homosexualité n'a pas eu lieu qu'à partir de 1945, comme l'avance le Sénat ?
Oui, je crois. C'était le but de mon travail. Est-ce que précisément cette proposition de loi, son examen a débuté en novembre 2023 au Sénat. Elle avait été déposée quelques mois plus tôt. Et à ce moment-là, j'avais un certain nombre d'intuitions sur le fait que cette proposition n'allait pas. Et c'est ce dont on avait discuté il y a un an et demi maintenant. Et puis ces intuitions, j'ai voulu les vérifier. Je suis allé consulter des archives judiciaires, policières. J'ai fait un certain nombre de lectures qui ont donné lieu à ce livre hein, qui vient de paraître et qui ont conforté cette hypothèse, qui ont nourri, qui ont aussi largement ouvert ma propre connaissance du sujet, parce qu'il y a des choses que j'ignorais totalement avant d'écrire ce livre et que j'ai découvertes. En effet, la proposition de loi ne va pas pour plusieurs raisons, à mon sens, parce que la période historique qu'elle couvre ne recouvre pas la totalité de la période pendant laquelle l'homosexualité a été réprimée, parce que même sur la période qu'elle couvre, elle n'est pas suffisante, puisque il y a eu différentes manières de réprimer l'homosexualité. Et puis, ce qu'à l'époque je discutais pas trop, mais ce qui maintenant m'apparaît aussi comme un vrai sujet, la manière même de faire réparation, la question de qu'est-ce qu'une politique de réparation, là aussi, il me semble que voilà, on peut apporter un certain nombre de critiques aux discussions en cours.
Eh bien, c'est super parce qu'on va en parler un peu plus en détail par la suite. Et comme vous l'avez mentionné dans le dernier épisode et dans votre livre, les condamnations ont très majoritairement touché des hommes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette invisibilisation de l'homosexualité féminine dans les sources ?
Bah, de fait, le lesbianisme a très peu préoccupé les dispositifs homophobes, que ce soit au XIXe siècle la médecine, la psychiatrie, mais aussi les juristes, la police, les juges. Leur préoccupation, très vive, hein, et visait avant tout l'homosexualité masculine, mais très peu l'homosexualité féminine, un peu, mais très peu, malgré tout, renforçant ou structurant une forme d'invisibilité du lesbianisme, si bien que même la répression pénale, la répression judiciaire, s'est très peu souciée des femmes. Qui plus est, les formes mêmes de la répression pénale ont visé plutôt des comportements sexuels ou des pratiques sexuelles qui étaient avant tout le fait des hommes, notamment la sexualité considérée dans l'espace public, voilà, qui est davantage une pratique d'hommes que de femmes, ce qui explique cette absence de la répression pénale visant les femmes, visant les lesbiennes, ou en tout cas une très faible répression pénale visant les lesbiennes. Hein, par exemple, sur 10 000 condamnations entre 1942 et 1982, il y a seulement 100 femmes, un peu plus de 100 femmes qui ont été condamnées.
Moi, la question qui me vient quand je vous entends parler du lesbianisme, c'est est-ce que vous avez vu dans vos recherches, est-ce que ça a un lien avec une représentation qu'on se faisait du lesbianisme comme quelque chose qui n'était pas dangereux pour la société, ou c'est vraiment qu'on ne voulait pas voir le lesbianisme?
Il me semble qu'il y a les deux. Il y a que, à la fois, on ne voulait pas le voir, au fait, de, finalement, deux femmes ensemble, ça ne peut pas être sexuel ou c'est pas sexualisé.
C'est contre la nature des femmes.
Et en même temps, c'est aussi que c'était... de fait, il y a une focalisation sur l'homosexualité masculine en raison aussi de la supériorité sociale prêtée aux hommes et que donc, une relation homosexuelle menace la masculinité. D'où cet intérêt tout particulier de la médecine, de la psychiatrie, de la psychanalyse naissante, etc., pour l'homosexualité masculine. Et puis aussi parce que les femmes étaient confinées dans l'espace privé et non pas dans l'espace public. Et donc, ça a été pas constitué comme un problème, comme l'homosexualité masculine a été constituée comme un problème. Ce qui pose aussi une question, c'est est-ce qu'il y a eu des formes de répression spécifiques au lesbianisme? J'en discutais avec quelqu'un qui travaille sur plutôt la pratique de la médecine, qui suggérait que, d'après ses recherches, il y a eu des formes spécifiques qu'ont visé les lesbiennes. J'attends les publications de sa recherche pour avoir un peu plus d'éléments, mais c'est aussi une hypothèse, une question évidemment très stimulante.
Alors aujourd'hui, quand on pense à la répression de l'homosexualité au 19e et au 20e siècle, on imagine le procès d'Oscar Wilde ou la discrétion de Marcel Proust, qui parle d'amour gay dans ses livres mais qui les vit en cachette. Et ce qui m'a marqué en vous lisant, c'est votre travail pour redonner une voix et une histoire aux victimes de la répression de l'homosexualité qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas des auteurs ou des artistes célèbres. Alors, quelle a été votre méthode pour retrouver les traces de ces hommes et quelles sont les sources que vous avez utilisées pour accéder à ces informations?
Effectivement, le souci qui m'a guidé dans ce livre, c'était de donner à voir des cas, de donner à voir cette répression quasiment, j'allais dire, au ras du sol, comme peuvent parfois dire les chercheurs, en tout cas, d'aller voir concrètement comment c'était, sinon quotidiennement, mais quelle était la vie quotidienne de cette répression. Donc effectivement, de ne pas faire une histoire légendaire, pas faire une histoire des militants, pas faire une histoire des auteurs, des artistes, mais une histoire des individus ordinaires, encore que certains n'étaient pas tout à fait ordinaires, mais en tout cas de l'ordinaire de cette répression. Comment j'ai fait ? J'ai passé beaucoup de temps dans des archives qui sont pour le 19e siècle accessibles aux chercheurs.
Que ce soit qu'il n'y a plus le temps d'attente pour y accéder.
Voilà. Et d'ailleurs, même les archives judiciaires aujourd'hui du 20e siècle sont accessibles parce que les minutes des procès sont consultables. Consulter les archives judiciaires, consulter aussi des archives de police. Là, les archives de police, comme vous le disiez, les archives de police plus récentes ne sont pas accessibles librement, il faut demander des autorisations. Et puis aussi lire un certain nombre de travaux de chercheurs, et puis qui constituent aussi une source d'aller regarder ce que d'autres collègues ont trouvé. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on cherche, on trouve, et c'est aussi ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est-à-dire qu'en allant fouiller un petit peu, j'ai eu l'impression de déterrer, sinon des trésors, en tout cas ce qui pour moi, pour ma recherche, paraissait des trésors, mais assez facilement d'avoir accès à beaucoup de matériaux qui ont été peu utilisés, peu exploités jusque-là. Par exemple, il y a un fonds qui occupe une place importante dans le livre, qui est le fonds des archives de la police de Toulon dans les années 1920-1930. C'est des milliers de feuillets qui donnent à voir sur une quinzaine d'années tout un pan de la répression. Voilà, trouver, avoir accès à ces archives, c'était proprement fascinant, parce que c'est beaucoup d'hypothèses, que beaucoup d'idées, que beaucoup de faits que ces archives ont donné à voir.
Et du coup, géographiquement, vous avez travaillé sur des archives de Paris, de Toulon, d'autres villes en France.
J'ai travaillé principalement sur Paris, oui. À la fois parce que j'habite à Paris, mais aussi parce qu'il y a davantage d'archives oui. accessibles sur la région parisienne, aussi parce que Paris est une capitale, oui. Que Paris a été en particulier une capitale homosexuelle, avec une vie homosexuelle particulièrement intense, et donc aussi une des traces archivistiques beaucoup plus fortes, beaucoup plus denses. Mais le livre va voir aussi un peu du côté de Toulon, je l'ai dit, du côté de Dijon, mmh. du côté de Nantes, du côté de Brest, voilà, pour aussi se poser la question de comment ça se passait ailleurs qu'à Paris, et notamment dans des villes qui n'étaient pas la capitale.
Vous parlez de nombreux cas judiciaires. Est-ce que vous avez anonymisé ces personnes et sinon, pourquoi? Parce que, donc, comme on disait, il y a toute cette question déjà de l'accès aux sources, la confidentialité. Mais là, comme c'est des archives qui sont maintenant accessibles, est-ce que vous avez fait le choix d'anonymiser ou non
J'ai fait le choix de ne pas anonymiser, mmh. et je m'en explique dans les premières pages du livre. C'est un choix que je considère même un choix politique. La pratique est, chez d'autres chercheurs qui travaillent sur l'histoire de l'homosexualité, est d'anonymiser. Et moi, c'est une pratique que je ne comprends pas, je dois le dire, au sens où, d'une part, pour moi, à partir du moment où on fait l'histoire de la répression de l'homosexualité et qu'on veut donner à voir la réalité de cette répression, il faut nommer. Il faut nommer les personnes victimes, il faut nommer ces personnes et raconter les situations dans lesquelles elles ont été prises et la manière dont le pouvoir, la répression s'est abattue sur elles et sur eux. Je comprends d'autant moins que l'argument souvent pour l'anonymat est la protection de la vie privée, voilà, en supposant que la sexualité, le genre font partie de la vie privée. Mais moi j'y insiste, nommer ces personnes, raconter la répression qu'elles ont subie, ce n'est pas parler de leur vie privée, mais c'est parler de leur vie public, à savoir comment des dispositifs de pouvoir, des politiques publiques homophobes se sont emparés d'elles. D'autant qu'au fond, on ne sait rien de leur identité de genre ou très peu de choses. On ne sait pas comment ils se pensaient, comment ils se définissaient, si telle personne arrêtée une fois dans les toilettes publiques en train d'avoir un rapport homosexuel était quelqu'un qui se pensait homosexuel ou qui quelqu'un qui se pensait hétérosexuel tout en ayant des rapports avec des hommes. Donc au fond, je ne sais pas grand-chose d'eux. Je sais seulement qu'à un moment, ils ont été pris dans ces dispositifs de pouvoir. Et par ailleurs, je pense que pour une histoire de la domination, il est important de nommer, d'autant que si on regarde d'autres histoires de la domination, on nomme, mais le fait de donner des noms ne dit pas grand-chose de l'identité des personnes. Je pense en particulier aux victimes de la Shoah, aux victimes de l'antisémitisme. Il y a eu des victimes des lois antisémites qui ne se pensaient pas comme juives, qui avaient un rapport distant à la religion ou à la culture juive, mais qui ont été considérées comme juives par les lois antisémites qui établissaient des critères raciaux en fonction des ascendants, etc. Et de dire que ces personnes ont été victimes des persécutions antisémites ne dit rien de leur judaïsme ou non, en tout cas de leur rapport complexe parfois au judaïsme. Et de même, je considère que dire que des personnes ont été victimes de la répression homophobe n'est pas révéler la vie privée de ces personnes. En revanche, quand les personnes peuvent encore être vivantes, j'ai choisi de... Voilà, de,
c'est une autre question.
Voilà, parce que c'est à, si elles sont vivantes, c'est à elles de choisir ce qu'elles veulent dire ou pas le dire.
Et est-ce qu'en tant qu'historien, parce que donc c'est un livre d'histoire que vous avez fait, vous avez un sentiment de responsabilité dans le rétablissement de la vérité sur cette répression, alors qu'on voit actuellement que des institutions comme le Sénat nient cette vérité de cette répression.
Effectivement, et c'est même toute la dynamique qui meut le livre, c'est-à-dire c'est un livre à la fois d'histoire, je pense... rigoureux d'ailleurs,
un livre, accessible.
mais accessible, mais voilà, avec des recherches, hein, c'est, oui. voilà. Mais c'est aussi un livre d'intervention, au sens précisément, je crois que ma responsabilité d'historien, au moment où l'Assemblée nationale et le Sénat travaillent à une loi qui produit un récit qui se veut historique, produit une certaine lecture de l'histoire, il est de mon devoir, il est de ma responsabilité de dire le récit que les parlementaires adoptent est un récit faux, un récit tronqué et un récit mensonger. Et moi, en tant qu'historien, je livre un autre récit. Et écrire l'histoire, c'est être engagé en permanence dans une bataille entre différents récits historiques. Et c'est vraiment toute la dynamique de ce livre, c'est-à-dire je me bats en tant qu'historien dans ce champ de bataille qu'est le travail autour de cette proposition de loi.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Dans votre ouvrage, vous étudiez majoritairement le cas français, mais vous mentionnez aussi d'autres pays européens comme l'Angleterre et l'Allemagne. Alors, est-ce que le droit, du point de vue de la répression de l'homosexualité, était le même qu'en France dans ces autres pays ?
Oui et non. Je m'intéresse à ces pays parce que eux aussi ont mis en place des politiques de réparation, et donc je cherche à comparer leur politique de réparation avec la politique française. Et évidemment, les politiques de réparation sont différentes parce que l'histoire de la répression de l'homosexualité n'est pas tout à fait la même dans ces pays et en France. Et en même temps, je m'insurge aussi contre un mythe d'un exceptionnalisme français qu'on entend beaucoup dans les débats, notamment quand les insuffisances de propositions de loi ont été soulignées. Des personnes ont dit « oui, mais la France, c'est pas pareil, on ne peut pas faire comme à l'étranger, etc. » Donc, à la fois, il y a des différences et à la fois, il y a une très grande proximité. La différence, c'est que l'Angleterre comme l'Allemagne ont eu, dès la fin du 19e siècle, une répression explicite de l'homosexualité dans le code pénal. Là où en France, il n'y a jamais eu de pénalisation de l'homosexualité en tant que telle dans le code pénal, c'est certains comportements homosexuels qui étaient visés dans le code pénal. Donc ça, c'est une différence importante. Et en même temps, quand on regarde la réalité des pratiques répressives, ces différences s'estompent, sont moins importantes. C'est-à-dire que même en Angleterre, là où il y avait un article du code pénal qui réprimait l'homosexualité, les juges ont pu utiliser une diversité d'incriminations pénales pour réprimer les comportements homosexuels. De même, dans ces pays, la police, comme en France, a joué un rôle de premier plan de surveillance, de harcèlement, de fichage, de traque des homosexuels. Si bien que la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que la situation, en dépit des différences de législation, n'est pas si éloigné. Quand bien même, on peut avancer l'hypothèse que la répression a été tout de même plus forte en Angleterre et en Allemagne, plus systématique qu'en France.
Vous posez une question dans votre livre qui m'a beaucoup intéressée. Quel espace doit être couvert par la réparation ? En effet, l'enquête doit aller jusqu'au territoire alors colonisé par la France. Et est-ce que vous avez pu accéder à des sources judiciaires ou policières à propos de ces espaces qui ont été colonisés ?
C'est une question importante parce que le territoire de la France aujourd'hui n'est pas le territoire de la France d'hier. Et la France a été un empire colonial et elle a mis en œuvre une répression de l'homosexualité dans son empire colonial. Il s'avère que j'ai travaillé en Tunisie, donc je connais un peu le cas tunisien. En Tunisie, il y a encore aujourd'hui d'ailleurs un article du code pénal qui réprime l'homosexualité, c'est l'article 230 du code pénal aujourd'hui. Il est introduit en 1913 par la France, au moment où la Tunisie est un protectorat français et les administrateurs coloniaux entreprennent de moderniser la législation et notamment font adopter un code pénal qui réprime l'homosexualité. Et donc s'il s'agit d'interroger l'action passé de la France, il faut prendre en compte cette action dans les territoires coloniaux. De même, l'Algérie, par exemple, a été un département français jusqu'à l'indépendance en 1962, et donc la législation française s'est appliquée en Algérie. Donc il est possible qu'aujourd'hui, sur le territoire algérien, il y ait des personnes qui ont été condamnées pour homosexualité jusque dans les années 1960. De même, les pratiques policières que je décris ont également eu lieu dans tout l'Empire colonial. On a quelques archives et un des projets que j'ai, c'est d'essayer d'aller plus loin dans la lecture, même l'identification de ces sources. Notamment, j'ai travaillé aux archives diplomatiques de Nantes où ont été rapatriées une partie des archives des protectorats, la Tunisie et du Maroc, et parmi les archives du protectorat tunisien, il y a un certain nombre de dossiers relatifs à l'homosexualité, des rapports de police, des rapports des administrateurs sur cette répression qui vise les homosexuels. Là aussi, c'est pas du tout une spécificité française, hein, en particulier en Angleterre, grand empire colonial. Au moment de la discussion sur les lois de réparation, la répression spécifique dans les colonies a été questionnée. On peut penser à l'Inde, on peut penser à d'autres anciennes colonies britanniques.
Et ça, on imagine que ce n'est pas du tout pris en compte dans la proposition de loi de réparation.
Absolument pas pris en compte dans la proposition de loi.
Étonnant. Et dans votre ouvrage, vous revenez sur un mythe, donc vous en avez déjà un peu parlé, mais assez répandu aujourd'hui, comme quoi l'homosexualité entre la Révolution française et Vichy n'a pas été juridiquement réprimée. Mais comme vous l'expliquez, c'est parce que cette répression était plus insidieuse avec la police, avec des lois qui ne mentionnaient pas directement que les homosexuels étaient des cibles. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais selon vous, qu'est-ce que ce mythe dit du point de vue de nos sociétés contemporaines sur l'homosexualité ?
Effectivement, il y a ce mythe Enfin, c'est pas un mythe que la Révolution a aboli le crime de sodomie en 1797. Et depuis, il y a ce mythe qu'il n'y aurait pas eu de répression de l'homosexualité, que la Révolution aurait définitivement fait disparaître cette législation d'arrière-garde, etc. Ce qui, à mon sens, dit beaucoup de tous les mythes qui entourent la Révolution française, hein, qu'on fantasme. Alors, la Révolution, évidemment, un moment extrêmement important de l'histoire politique française, mais il y a aussi une série de fantasmes comme moment zéro, des libertés, d'une espèce de modernité politique, etc. Et donc, on dit tout et n'importe quoi aussi vis-à-vis des effets de la Révolution. Ce qui se passe au début du 19e siècle, à la suite de la Révolution, c'est que si l'homosexualité n'est pas explicitement visé, notamment dans le nouveau code pénal de 1810, ce n'est pas en raison d'un libéralisme du pouvoir, et notamment de Napoléon, de l'Empire, ou des juristes, etc. C'est-à-dire que ce choix, c'est vraiment un choix de ne pas l'inclure, mais non pas en raison d'une plus grande tolérance, mais en raison d'une croyance selon laquelle une répression directe et explicite de l'homosexualité encouragerait l'homosexualité au lieu d'aider à lutter contre. Il y a l'idée, qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs sous d'autres formes, que la publicité de l'homosexualité serait un encouragement à l'homosexualité. C'est ce qui explique que certaines oui. luttent contre les films, les représentations, encore aujourd'hui. Mmh. Mais cette idée était déjà là, au début du XIXe siècle, et donc le législateur et des juristes disent « réprimons discrètement, souterrainement l'homosexualité », qui est évidemment un comportement tout à fait inacceptable, mais n'en faisons pas la publicité pour ne pas montrer que ce comportement existe. Si bien que quand on dit qu'il n'y a pas eu de répression de l'homosexualité, et quand, en l'occurrence, cette proposition de loi de réparation ne considère pas la répression de l'homosexualité avant 1942, elle donne raison à cette structure homophobe. Et c'est une grande victoire de cette structure homophobe, de cette invisibilité de l'homosexualité, qui a tellement bien réussi à invisibiliser la répression, qu'encore aujourd'hui, elle apparaît invisible aux yeux de certains.
Et vous parliez aussi de la responsabilité de la police, à laquelle on pense moins, et de son contrôle sur la répression de l'homosexualité. Et vous parlez aussi des méthodes de surveillance, mais qui vont être perpétrées par l'inconnu, le voisin, et donc le policier. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets, comme vous en mentionnez dans votre livre, de cette surveillance, de ce contrôle qui se fait partout et de façon assez insidieuse ?
Et la police est la grande absente du débat sur la réparation aujourd'hui, alors même que la répression de l'homosexualité a été avant tout une répression policière. La police surveille, fiche, quadrille l'espace urbain, connaît très bien les géographies homosexuel, passe son temps à rédiger des rapports, qui sont d'ailleurs aujourd'hui une source très précieuse pour historiens. Que fait la police ? Elle fait des rafles, ce qu'elle appelle elle-même des rafles, c'est-à-dire qu'elle fait des descentes dans les bars, dans les boîtes de nuit, même dans les hôtels qu'elle sait fréquenter par des homosexuels. Elle se fait ouvrir les chambres au milieu de la nuit pour constater la présence de deux hommes ensemble, parfois de deux femmes. Elle arrête tout le monde, elle les emmène au poste de police, elle les interroge. Avec ces interrogatoires, à partir de ces interrogatoires et des rapports, elle établit un fichier des personnes homosexuelles, hein, et les services de police dans les différentes villes tenaient de tels fichiers. Les policiers vont aussi dans des bains de vapeur, les ancêtres des saunas, de manière dénudée donc, se fait passer pour des clients, observe ce qui se passe, constate que des rapports sexuels ont lieu, et puis... à la sortie, arrête les personnes qui ont eu des rapports sexuels dans les saunas. Voilà un exemple hein, de cette activité policière. Et puis, elle quadrille aussi les parcs, les jardins, les endroits un peu isolés de l'espace urbain dont elle sait que ce sont des lieux de rencontre, voire de consommation sexuelle, comme on pourrait dire, consommation homosexuelle.
Et pour rebondir donc, sur ces géographies homosexuelles, sur ces lieux homosexuels donc, à Paris et ailleurs, moi, j'ai une question par rapport à aujourd'hui, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les lieux de cruising, donc ces lieux de l'homosexualité masculine, disparaissent. On pense par exemple au labyrinthe des Tuileries, qui n'a plus d'arbres depuis l'hiver 2024, ou encore au sauna gay, qui rencontre des grandes difficultés financières. Est-ce que, selon vous, c'est le signe que les hommes gays n'ont plus besoin de lieux secrets, comme au 19e, au 20e siècle, pour vivre leur sexualité? Ou est-ce que, même si on ne peut plus vraiment parler aujourd'hui de répression de l'homosexualité, c'est plutôt une forme de polissage de la sexualité gay?
Il y a deux phénomènes en même temps, je dirais. D'une part, en fait, il y a une transformation des usages. Par exemple, les bars sont moins fréquentés, certains bars ferment parce qu'il y a d'autres modalités de rencontres, les applications, des choses comme ça, voire parfois des personnes qui ont moins envie... Enfin, c'est une question d'ailleurs, mais il y a des travaux qui disent que des personnes ont moins besoin des bars spécifiques pour se rencontrer, etc. Donc, il y a une transformation des pratiques et des usages. Mais il y a aussi toujours des formes de régulation de l'homosexualité. Le labyrinthe des Tuileries en est un exemple. Hein. Si le labyrinthe des Tuileries n'existe plus aujourd'hui ou n'existe plus tel qu'il existait, c'est pas parce qu'il a été déserté, c'est parce que des autorités publiques l'ont radicalement transformé et ont appairé des transformations qui empêchent les pratiques sexuelles ou la drague qui s'y déroulaient. Et de fait, il y a toujours des formes de régulation de l'homosexualité dans l'espace public, alors moins forte, plus tolérante, évidemment moins répressive, mais typiquement les lieux de drague en extérieur, voilà, les pouvoirs publics ont un vrai rôle, en tout cas peuvent agir pour les limiter, voire pour les faire disparaître. Pour moi, la disparition du labyrinthe des Tuileries est un immense scandale, c'est-à-dire que en plein cœur d'une ville comme Paris, un lieu de drague historique depuis plusieurs siècles, puisse quasiment du jour au lendemain, sinon être rayé de la carte, être autant modifié et que toutes les dynamiques qui s'y déroulent soient autant menacées, voilà, et sans susciter quoi que ce soit. Enfin, il y a eu une enquête dans Libération qui était
c'est de là que j'ai lu les informations.
Voilà, mais sinon, c'est quand même fou.
Oui, non, mais on le voit aussi avec... on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de lieux pour l'homosexualité, de bars gays, de bars lesbiens. Mais finalement, quand on regarde un peu dans l'histoire du 19e et surtout du 20e siècle, bah, en fait, à l'époque, y avait l'embarras du choix. Et aujourd'hui, bah, c'est beaucoup moins le cas.
Bah, dès la fin du 19e siècle, il y a plusieurs saunas, bains de vapeur homosexuels à Paris. Il y a déjà tout un dynamisme de cette scène-là, oui.
Merci beaucoup Antoine Nidier pour votre passage au lobby. Je rappelle que votre livre Réprimer et réparer, une histoire effacée de l'homosexualité est disponible depuis début avril aux éditions Textuelles. On se quitte comme chaque semaine avec une nouveauté musicale. Aujourd'hui, c'est le single Oulala de Hades The Planet. Fils, tu les connais, on se la donne, on sait comment.
crush, big racks, fucking big yes, dans un big bag, big money shit, big stack pour la petite rush. Moi je garde la petite money shit, big stack pour la petite rush, big racks, fucking big yes, dans un big.
Cette émission a été présentée par Aglaé et préparée et réalisée avec l'aide de Colin. Vous pourrez retrouver toutes les émissions du Lobby sur les plateformes de podcast et sur radiocampusparis.org. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, rejoignez-nous sur notre Instagram, @lelobbyrcp. À bientôt.
Je veux plus ton truc, c'est même pas tassé. Ouh.